Les monologues automne-hiver de Sébastien Bedbédé. Deuxième partie. Automne-hiver 2010-2011. Épilogue. Janvier 2012. Armand a 30 ans et a décidé qu'il était temps que quelque chose se passe. Pour commencer, il court dans un parc. C'est là qu'au détour d'un virage, il percute Amélie. Amélie a 27 ans et demi. Elle travaille dans une galerie et voudrait vivre en écrivant sur l'art. Pour Armand, cette première rencontre est un choc. Il revient au parc, chaque week-end dans l'espoir de recroiser la jeune femme. Mais cette dernière a déménagé et changé d'arrondissement. Voilà pourquoi elle ne court plus dans le parc. Un soir, Amélie est invitée à dîner par Guillaume, le jeune homme avec qui elle sort, plus ou moins depuis 6 mois. Après le repas, alors qu'ils marchent dans une rue sombre et déserte, deux jeunes hommes vêtus comme des ninjas sortent de la cour d'un immeuble. Ils leur sautent dessus en arrachant le sac d'Amélie. Ils menacent Guillaume en lui intimant l'ordre de partir. Celui-ci s'exécute, lâchement. Les deux ninjas entraînent alors Amélie dans la cour. En sortant du cinéma, après avoir quitté Benjamin, son meilleur ami rencontré lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants aux Beaux-Arts à Bordeaux, Armand, sur son vélo, traverse le quartier du Marais. Il s'arrête brusquement, alerté par le cri d'une jeune femme. Il descend de son vélo et entre dans la cour. Malgré la pénombre, il reconnaît Amélie. Il interpelle courageusement les ninjas, mais ces derniers ne semblent pas disposés à discuter. Le plus petit préfère lui planter un couteau dans le ventre avant de s'enfuir avec son acolyte, les laissant, lui et sa blessure, dans les bras d'Amélie. Arrivé à l'hôpital après une traversée de Paris en SAMU, Armand rêve de son père, décédé lorsque lui-même avait 20 ans. Le voilà maintenant tiré d'affaire. Amélie et Armand passent du temps ensemble. Dans cette chambre d'hôpital, ils apprennent à se connaître. C'est en sortant d'une visite faite à son ami que Benjamin est victime d'un AVC. Il s'écroule dans une haie de laurier et est retrouvé le lendemain matin, étendu et à moitié paralysé. Il rejoint Armand à l'hôpital Bichat. Quand le premier s'apprête à en sortir, le second y entre avec son cerveau abîmé. Benjamin commence alors le long processus de rééducation, enchaînant séances d'orthophonie et de kinésithérapie. Lors d'une nuit, sa sœur Lucie, qui s'est spécialisée dans de drôles de pratiques ésotériques, entre en communication télépathique avec lui. Maintenant que son meilleur ami est sauvé, Armand décide d'inviter Amélie à dîner chez lui. À la fin de cette soirée, il pose un baiser sur ses lèvres. Deuxième partie. Automne-hiver 2010-2011. 33. Le temps qui passe.
Voilà maintenant plus d'un an que j'ai rencontré Amélie. Ça s'est passé dans ce parc que nous longeons aujourd'hui ensemble au volant de la voiture de location que je conduis. En voyant les joggeurs derrière les grilles, je repense au jeune homme que j'étais. Je me revois avec mon survêtement ridicule et mon désir de changer de vie. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et ma vie a changé. J'habite avec une fille dont je suis amoureux. Je participe à la vie sociale et économique de mon pays en travaillant au Point Éphémère, un centre artistique situé sur le canal Saint-Martin qui organise des concerts et des expositions. J'ai jamais montré mes peintures à Amélie. Elle ne me l'a jamais plus demandé. Je ne cours plus dans les parcs, mais une fois par semaine, je me rends dans une salle de sport. Amélie a quitté la galerie. Elle a obtenu une bourse d'écriture et est en train de finir une thèse sur l'autoportrait dans l'art contemporain. Elle commence à publier dans les revues d'art et elle a réalisé un long entretien avec Roman Opalka, l'artiste qu'elle admire le plus au monde. Benjamin aujourd'hui est guéri. Bon, il blogue bien quelquefois sur un mot, parle de Minitel à la place d'Internet. Son débit de parole est un peu plus lent, mais la rapidité de son rétablissement a surpris tout le monde. À l'exception de sa dernière orthophoniste avec qui il entretient depuis peu, on va dire, une relation extra-professionnelle. Si nous longeons ce parc aujourd'hui avec Amélie dans une voiture de location, c'est que justement nous allons rejoindre pour 4 jours Benjamin et Katia, sa fiancée orthophoniste, dans un village suisse dénommé Fao, près de la frontière française. C'est là que vit l'oncle de Katia. Il possède, en plus de leur habitation, un immense chalet qu'il loue aux touristes. Une colonie de vacances allemande s'est désistée au dernier moment. Le chalet est libre. Nous profitons de cette opportunité.
Fin août, Vatican. Nous avons été obligés de laisser la voiture à la gare de Martigny. La neige est arrivée très tôt et de façon abondante, rendant les routes au-dessus de Martigny inaccessibles sans équipement. Nous montons vers fin août à la nuit tombée, par le petit train. Nous sommes seuls. La pénombre nous empêche de profiter pleinement du paysage que nous devinons grandiose. Ça monte. Nos corps sont penchés. Le sac que j'avais laissé dans le couloir dégringole jusqu'à l'autre extrémité du wagon. Armand se lève pour aller le récupérer. Il revient vers moi en étant obligé de s'agripper au siège. Nous arrivons à la gare de Fin-Haut, 10 minutes après notre départ. Sur le quai enneigé, Katia et Benjamin nous accueillent, tout sourire. C'est la première fois que nous rencontrons Katia avec Armand. C'est un petit bout de femme, comme on dit. Plus jeune que nous, 25 ans, je dirais. Elle porte un bonnet de laine blanche, une doudoune assortie qui descend jusqu'aux genoux et des moon boots aux pieds. Elle ressemble à un lutin, emmitouflé dans ses vêtements. Benjamin nous avait pas menti, elle est très belle. Lui a l'air en forme, quoiqu'un peu fatigué. Il a maigri depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Katia nous invite à nous rendre au chalet à pied. De toute façon, ils ont pas de voiture. Il y en a pour un petit quart d'heure. Il fait maintenant nuit noire. Nous traversons la rue principale de Fin-Haut. Elle est déserte. On a l'impression d'arriver dans un village fantôme. 5 minutes après, nous arrivons devant une partie de la rue où se succèdent 3 bars. À l'intérieur de chacun d'eux, 10 de clients. C'est visiblement là que se retrouvent les autochtones. Derrière la vitre du 3e bar, un jeune homme étrange nous observe, d'un air pensif. Il salue Katia d'un geste de la main.
C'est mon cousin. Il vient de se faire quitter. Il est en dépression.
Nous voilà arrivés à destination. Sur la façade du chalet, gravé dans le bois, son nom, le Vatican. V-A-T-I-C-A-M-P. C'est pas donné à tout le monde de loger au Vatican, qu'importe l'orthographe.
Le Vatican reçoit beaucoup de groupes d'enfants handicapés ou malades. C'est même sa spécialité avec les drogués.
35. Katia, après la bataille.
C'est toujours difficile d'arriver dans une histoire après la bataille. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais ce soir, face à 2 inconnus et devant une fondue, je me retrouve à devoir raconter ma vie. Je me rends compte qu'à 26 ans, je me confronte à cet exercice pour la première fois. Je me lance. Je suis née en Suisse, à Lausanne. C'est là-bas que ma mère vit encore. Mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans. Ma mère est prof de français en collège. Mon père vit à Zurich, il est médecin. J'ai un grand frère qui, lui, vit à Morges, à côté de Lausanne. Il est psychiatre. J'ai eu une enfance normale, plutôt heureuse malgré le divorce de mes parents. Je passais toutes mes vacances ici, à Fin-Haut, chez mon oncle, le frère de ma mère, qui habite de l'autre côté du village et qui possède le Vatican. Je suis restée à Lausanne jusqu'à mes 18 ans, puis je suis partie faire médecine à Genève. J'ai tenu 2 ans avant de m'avouer que je n'étais pas à ma place. À cette époque, je sortais avec un garçon qui était en cours avec moi, Mathias. Il avait décidé de poursuivre ses études à Paris, où il avait vécu son enfance. Je l'ai suivi. J'ai tout de suite adoré Paris. Nous vivions dans un petit appartement près de Montmartre. Je me suis inscrite à la fac en sciences du langage. J'avais choisi cette discipline presque par hasard, j'aimais bien l'intitulé. Et puis, j'ai commencé à vraiment aimer ce que l'on m'y enseignait. En année de maîtrise, il y avait un prof avec qui je m'entendais très bien. Il m'a incité à tenter une école d'orthophonie. J'ai été reçue. La même année, on s'est séparés avec Mathias. J'ai fini l'école et j'ai été engagée dans un cabinet médical aussitôt. Benjamin fait partie de mes premiers patients. Voilà un résumé de mes 26 premières années. C'était pas si compliqué. Nous entamons une deuxième tournée de fondue.
36. Dans la chambre de Katia et Benjamin.
Nous sommes partis nous coucher vers 2h du matin. Katia avait l'air heureuse de sa rencontre avec Amélie et Armand. J'étais soulagée que ça se soit si bien passé. En y pensant, je n'avais aucune raison d'en douter. Nous avons fait l'amour, puis Katia s'est endormie dans mes bras. Depuis mon AVC, Katia est la seule personne avec qui j'ai couché. À chaque fois que nous faisons l'amour, l'instant qui suit, j'éprouve une angoisse terrible et la peur de mourir. Je voudrais parvenir à lui parler de ça. Je m'endors en pensant à la chance que j'ai d'avoir rencontré Katia.
37. Neige.
En regardant par la fenêtre au réveil, je suis surpris de découvrir un paysage totalement blanc. La traversée du village hier soir de nuit, sur un sol déneigé, m'avait empêché de me rendre compte de ce phénomène climatique, somme toute habituel en ces altitudes. Le nez à la fenêtre, les yeux sur le blanc, je repense à mon rêve post-mortem d'il y a un an, celui où mon père m'était apparu. Je sursaute lorsque j'entends les pas d'Amélie dans le couloir. Nous descendons au petit déjeuner. Elle a l'air étrange ce matin. Après une partie de baby-foot digestive avec Benjamin, Katia nous propose une petite randonnée en raquette jusqu'au col des Hauts-Forts.
38. Le col des Hauts-Forts.
Nous avons marché 4 heures avant d'arriver au sommet. 4 longues et interminables heures. J'ai pas l'habitude de marcher en montagne. C'est même pour moi une première. Et j'ai dû puiser dans mes dernières ressources pour parvenir au but de notre randonnée. Je suis épuisée et j'ai du mal à apprécier la vue immense qui s'offre à nous. J'observe Armand, Benjamin et Katia qui, aussi frais que s'ils sortaient de leur bain, s'extasient devant ce paysage de carte postale, sans se soucier de mon état. Quel plaisir peut-on éprouver, les pieds dans la neige, le visage transi par un vent froid et mordant. Au bout d'une longue minute, Armand se tourne vers moi. Enfin.
Ça va ?
Non.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Katia et Benjamin se retournent à leur tour. Ils me regardent tous les trois de leurs yeux compatissants. Je suis mal à l'aise. J'ai l'impression de me donner en spectacle. Je me sens seule. Je m'assois dans la neige. J'éclate en sanglots.
39. Les larmes et la salamandre.
C'est la première fois que je vois Amélie pleurer. J'ai jamais vu de larmes couler de ses yeux. Pas une seule fois depuis une année. Pas même le souvenir d'un œil qui brille. Je la prends dans mes bras. Ses sanglots cessent. Nous restons comme ça, enlacés, immobiles et silencieux. Je sais à cette seconde qu'il y aura dans mon histoire avec Amélie un avant et un après col des Hauts-Forts. Katia sort de son sac du pain deux magnifiques fromages locaux. Nous grignotons, tandis que Benjamin commence à disserter sur la gastronomie suisse. Benjamin déteste les conflits, il déteste les situations tendues. Et cette aversion, me semble-t-il, s'est encore accentuée depuis son AVC. Dès qu'un silence se fait un peu trop long, il faut qu'il désamorce. C'est plus fort que lui. Après quelques remarques pertinente, sur les différences entre la cuisine romande et la cuisine alémanique, il dérive vers le cinéma d'Alain Tanner. À propos des trésors suisses, avez-vous vu la salamandre d'Alain Tanner ? Alors, ni Amélie, ni moi-même n'avions vu la salamandre d'Alain Tanner. C'est Katia qui a fait découvrir à Benjamin l'histoire de Rosemonde, interprétée plutôt, on va dire, assez brillamment par Bulogier. Et sans nous laisser le choix, il se lance dans un résumé du film.
Alors, Au début du film, Rosemonde est accusée d'avoir tiré à la carabine sur son oncle qui l'héberge.
Katia l'écoute comme une orthophoniste, amoureuse de son passé.
Et ça commence à intéresser Pierre, un journaliste. Il en parle à Paul, son ami, qui est écrivain, et les deux hommes décident d'écrire un scénario à partir du fait divers dont la jeune femme est la protagoniste. Donc, chacun choisit sa méthode. Pierre, l'enquête, et Paul, la fiction. Et chacun tombe amoureux de Rosemonde. C'est un film qui, l'air de rien, pose des questions essentielles.
Elle bricole. Elle fait les sales petits boulots. Elle part un peu par la tangente. L'oncle essaie de la remettre sur les rails. Il s'engueule un peu. Et puis un beau jour, comme il y a le fusil militaire sous la main, et Rosemonde elle est un peu sauvage, forcément, le coup part. C'est pas mal cette histoire. Je vais rester, qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal, mais il y a tout de même un petit problème.
Lequel?
Mais qu'est-ce que tu fais de la réalité dans tout ça?
Eh ben, ça fait 5 minutes que je t'en parle de la réalité.
Benjamin, grâce à la gastronomie suisse et à Alain Tanner, a réussi à éloigner le nuage qui ombrageait le visage d'Amélie. Mais lorsque nous nous décidons à lever le camp, c'est un autre nuage qui remplit le haut du ciel. Et celui-là est immense et menaçant. Il ne faut pas traîner. En descendant, je m'interroge sur la présence de la salamandre dans le cerveau de Benjamin. Me revient alors en mémoire le jour où, en sortant de la projection d'un vieux film de Jacques Rivette, il m'avait fait remarquer la ressemblance entre Amélie et Bulogier.
40. Fin haut au passé simple.
Les deux jours qui suivirent la randonnée du col des Hauts-Forts furent assez étranges. Amélie ne reparla pas de ses larmes. Je ne cherchais pas à en savoir plus et mis cela sur le compte de la fatigue. Katia et Benjamin s'évertuèrent à faire de notre séjour le moment le plus agréable qui soit. Nous fîmes une autre balade, moins sportive. Nous mangeâmes beaucoup, bûmes un peu. Et Katia et Benjamin nous ramenèrent à la gare. Dans le train du retour, nos corps penchés dans le sens inverse, la tête vers le bas.
Le début de la fin.
Nous sommes sur le quai avec Benjamin. Le petit train à destination de Martigny part. À l'intérieur, Amélie et Armand nous saluent par-delà la vitre. Le train disparaît. Benjamin, les yeux sur le col des Hauts-Forts, que l'on distingue bien depuis la gare, me fait alors cette remarque.
Ça sent la fin du début.
Il voulait dire le début de la fin. Il parlait d'Amélie et d'Armand. J'espérais qu'il se trompait. De retour au Vatican, j'aperçois la silhouette tout de noir vêtue de Yann, mon cousin. Il sort du garage et tient dans sa main un fusil. Nous nous approchons de lui. Il relève la tête, mal à l'aise. Il ne peut nous éviter. Ses yeux sont rouges. Il a l'air au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu fais ?
J'étais venu chercher le fusil.
Pourquoi faire ?
Je vais chasser.
Toi, tu vas chasser ?
Oui.
Et tu vas chasser quoi ?
Les lapins.
Tu tires sur les lapins.
Oui.
42. Yann, mon cousin.
Avec Yann, nous avons un an de différence. Enfant, durant les vacances, nous passions toutes nos après-midi ensemble. Nous arpentions les forêts de Fin-Haut. Nous nous inventions des vies aventureuses. Nous étions chevaliers et princesses, pirates des montagnes, cow-boys, cow-girls. Nous étions des enfants turbulents et gais. J'étais impatiente de le retrouver chaque été. C'est l'année de ses 15 ans qu'a eu lieu le changement. Lorsqu'il est entré au lycée à Martigny. Je me souviens très bien de cet été 2000 où je l'ai découvert transformé. Il portait des vêtements sombres, s'est éteint les cheveux en noir. Il ne voulait plus sortir. Il s'enfermait des heures dans sa chambre volet clos pour écouter de la musique gothique. On aurait dit un vampire. Ce fut l'été le plus ennuyeux de mon existence.
C'est cette même année que j'ai fondé The Dead Children avec deux amis à moi. L'un était batteur, l'autre guitariste. Moi, je jouais de la basse. Au début, je chantais aussi, mais c'était pas terrible. J'arrivais pas à poser ma voix sur la ligne de basse et ça produisait un truc inécoutable. Là, on a décidé de passer une annonce pour trouver une chanteuse. C'est comme ça que j'ai rencontré Maria. Ça a été le coup de foudre. On est sortis ensemble aussitôt. Maria, elle, est dotée d'une vraie voix qui me fait un peu penser à celle de Nico. The Dead Children a commencé à avoir un petit succès dans la région. C'était la période fast, ça a duré 3 ans. Puis Maria m'a quitté une première fois. J'ai fait ma première tentative de suicide. C'était dans le garage du Vatican. J'avais pour idée de me pendre comme Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Mais la poutre a cédé, je me suis cassé le bras en retombant. Mon père l'a pas su. Maria est revenue vers moi, ça a recommencé un temps. Ensuite, il y a eu des dissensions dans le groupe. Elles concernaient la direction musicale. Aucun de nous quatre n'était d'accord sur les choix artistiques à faire pour qu'évolue The Dead Children. Et inévitablement, le groupe s'est dissous. Après, Maria en a eu assez d'être gothique. Elle est devenue normale. J'étais amoureux, je suis devenu normal aussi. Puis je me suis mis à faire de la musique électronique tout seul. J'ai recommencé à chanter en mélangeant l'allemand et le français, c'était beaucoup mieux. On m'a dit que ça ressemblait un peu à Grauzone, le deuxième groupe de Stefan Escher. C'est à cette époque que Maria a rencontré un type dans la boîte où elle travaillait. Ils ont flirté une ou deux fois. Quand je l'ai appris, j'ai fait ma deuxième tentative de suicide. C'était au début de l'été, j'ai bu 2 litres de whisky et j'ai tenté de me noyer comme Jeff Buckley. Je suis entré tout habillé dans le lac, près du barrage des Moussons. Des touristes qui passaient par là m'ont vu au loin, un type a plongé et il m'a sorti de l'eau. J'ai fait la une des journaux. Après, ça a été la période d'asile psychiatrique. Là-bas, je passais mes journées à composer des chansons en français sur un 4-pistes. Quand j'ai eu 10 morceaux, je les ai envoyés à Maria par mail. Elle a trouvé ça tellement émouvant qu'elle est revenue vers moi. Je suis sorti de l'asile et on s'est installé à Martigny. Ça tenait, ça semblait solide. Puis on a à nouveau rompu il y a un mois. Elle m'a viré de l'appartement. Je sais pas trop pourquoi. Là, je suis revenu vivre à fin août chez mon père. Building our own with those who join us. Celebration, celebration for.
La chasse aux lapins.
Je peux venir avec toi ?
Où ça ?
À la chasse aux lapins. C'est comme ça que j'ai empêché ce qui s'annonçait comme la 3e tentative de suicide du cousin de Katia. Nous avons d'abord marché en silence pendant plusieurs minutes, en direction du bois de Finhaut. Mais le silence était trop pesant. Alors je lui ai parlé de ma grand-mère, celle qui avait vécu dans les Pyrénées et que j'aimais beaucoup. Elle élevait des lapins. Je me souviens d'elle en train de dépouiller l'animal. Elle sectionnait d'abord les pattes, puis elle les dégageait en retroussant la fourrure et tout venait tout seul jusqu'à la tête. On aurait dit qu'elle lui retirait son pull. C'était fascinant. Enfin, moi ça me fascinait. Arrivés au cœur de la forêt, nous nous sommes cachés derrière un buisson et nous avons attendu le lapin. Puis Yann a commencé à me parler de Maria, son ex. Je l'ai écouté, ça avait l'air de lui faire du bien. Il m'a dit qu'entre Maria et lui c'était fusionnel, mais qu'ils n'arrivaient pas à rester ensemble, qu'au bout d'un moment, ils s'engueulaient pour des motifs absurdes et que c'était le drame de sa vie. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il accepte cette situation, que c'était comme ça qu'il fonctionnait, qu'elle reviendrait vers lui. Il m'a dit « Tu crois ?» J'ai dit « Je suis certain. » Je mentais, je n'en savais rien. Il m'a souri et c'est là qu'un lapin est arrivé. Il était tout blanc et se confondait avec la neige. Il s'est immobilisé entre 2 sapins. Yann a braqué son arme sur le petit animal. Dans mon esprit, je me disais, il ne va pas tirer. Mais il ne va pas tuer ce petit lapin. Mais Yann a tiré. Le corps du lapin est tombé sans bruit. Une tache rouge est apparue. Un peu de sang a coulé sur la neige. Yann s'est tourné vers moi. Il avait une tête bizarre.
C'est la première fois que je tue un être vivant.
Le soir, Katia a cuisiné le lapin à la moutarde pour nous 3. Je n'ai rien pu manger.
44, secret.
If you must wait.
Il y a un mois, nous étions avec Katia et Benjamin au col des Hauts-Forts et je pleurais. Je pleurais sans savoir pourquoi. Je me sentais mal. Le lendemain de notre retour à Paris, je suis allée voir un médecin. J'étais enceinte. Lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, j'ai fait semblant d'être heureuse comme il se doit. Puis je suis rentrée chez nous. J'ai rien dit à Armand. J'aurais aussi bien pu lui dire, pourtant j'ai choisi de ne rien dire. Les jours suivants, j'ai pensé à nous deux, à notre histoire. J'ai continué à me taire. Je me suis posé un tas de questions. Est-ce que j'aimais Armand ? Est-ce que j'avais envie d'avoir un enfant de lui ? Est-ce que j'avais envie d'avoir un enfant ? Est-ce que j'étais capable d'aimer quelqu'un ? Je savais répondre à aucune de ces questions, je me suis détestée pour ça. Armand ignore qu'aujourd'hui je suis allée à la clinique. Il sait pas ce que je viens de faire.
45. La nuit a fini par tomber.
Je voyais bien que depuis quelque temps ça n'allait pas. Amélie n'était plus que l'ombre d'elle-même. Je l'ai questionnée un peu plus fermement que d'habitude. Je voulais savoir ce qui nous arrivait. Elle s'est mise à pleurer. C'était la deuxième fois que je la voyais pleurer. Et puis, elle m'a tout raconté. Elle m'a demandé si j'aurais voulu le garder. Mais c'était pas la question. La vraie question, c'était pourquoi est-ce qu'elle ne m'en avait pas parlé. Elle savait pas pourquoi. Elle savait plus rien. J'ai crié que c'était dégueulasse d'avoir fait ça. Elle a continué à pleurer. Je tapais fort contre l'armoire en bois massif qui avait appartenu à ses grands-parents. J'avais très mal au poignet. J'en voulais à l'armoire. J'en voulais à ses grands-parents. Je suis parti, j'ai marché pendant 2 heures. Puis la nuit a fini par tomber.
Les idiots.
Nous nous sommes retrouvés au café Les Idiots, un boulevard de Ménilmontant. Quand on n'a pas d'idée, on finit toujours par atterrir aux idiots. Je n'avais jamais vu Armand dans un tel état. C'était un bloc de colère et de tristesse, un drôle de mélange. Il m'a demandé s'il pouvait continuer une histoire avec une fille qui avait fait ça. Une fille qui ne voulait pas d'enfant de lui. Est-ce que ça avait encore un sens ? Après la deuxième lèvre, la colère s'était effacée. Il ne restait que la tristesse.
Je peux pas rentrer chez nous, je pourrais pas la regarder en face. Là.
Je lui ai proposé mon appartement. J'irai habiter chez Katia. De toute façon, j'y habite déjà la moitié du temps. Il a posé la main sur mon épaule. C'était un peu solennel et ça durait longtemps. J'étais embarrassé. Il a retiré sa main et a baissé les yeux. Alors j'ai commandé une troisième lèvre. Depuis mon AVC, je fais attention de ne pas trop boire. Mais dans les situations extrêmes comme celle de ce soir, il m'arrive de faire une entorse au règlement. À la moitié de la troisième lèvre, Armand m'a dit
« Tu vois, c'est terrible, mais je crois que je pourrais lui pardonner, tu vois. »
Puis il s'est levé d'un coup. J'ai eu peur qu'il aille rejoindre Amélie. Il fallait juste qu'il passe aux toilettes.
47. Azuki.
En sortant de la porte des garçons, après m'être délesté de mes 2 lèvres et demi, je tombe sur une fille de dos devant le lavabo dans l'espace commun aux 2 sexes. Elle sursaute en me découvrant dans le reflet du miroir. Elle se retourne, je souris. On se regarde un moment comme ça. Je connais ce visage. C'était Azuki, des Beaux-Arts de Bordeaux. Cette rencontre inattendue a un goût de nostalgie qui s'accorde idéalement à l'ambiance générale. Donc j'invite Azuki à nous rejoindre à la table que nous occupons. Nous descendons des toilettes ensemble sous le regard d'un Benjamin interloqué. Avec Benjamin, nous sommes heureux de retrouver notre ancienne camarade perdue de vue depuis les Beaux-Arts de Bordeaux. Le serveur débarrasse nos verres vides. Nous commandons une 4e tournée de bière belge. Azuki, un martini gin. Azuki s'est installée à Paris il y a 6 mois. Elle habite maintenant rue des Cendriers, juste à côté des Idiots. Elle vit là avec une fille.
Je suis devenue lesbienne de jour au lendemain. J'ai rencontré Caroline et j'ai changé d'orientation sexuelle.
Benjamin manque de s'étouffer. Bon, je reste sans voix. D'autant qu'à l'époque, elle n'était pas vraiment la dernière pour les plans cul de fin de soirée, quoi. Et à l'époque, disons qu'elle aimait beaucoup les garçons. Et disons que, comment, enfin, c'est pas Benjamin qui pourrait dire le contraire.
Les garçons, ça devenait beaucoup trop compliqué. Ça finissait toujours mal. Puis je commençais à me lasser de ces coucheries intermittentes. En vieillissant, j'avais besoin d'un autre type de relation. Plus stable, moins crue. Mais en fait, tu sais quoi? Je crois que j'en avais marre de me faire enculer.
Le long rire aigu de notre camarade, dont je n'avais pas perdu le souvenir, s'arrête net. Elle plonge alors ses lèvres dans le verre de Martini Gin qu'elle vide d'une traite. Le regard de Benjamin croise le mien, dans nos yeux la même expression de profonde perplexité. Avant de faire sa révolution sexuelle, elle avait arrêté la peinture, elle aussi. Elle travaillait maintenant dans la mode avec Carolane. Elle venait de créer une petite boîte et elle développait leur première collection pour les jeunes filles modernes qui assument leur homosexualité et leur féminité.
Et vous, vous êtes devenu quoi alors? Vous avez pris un sacré coup de vue en tout cas.
Nous nous sommes quittés à la fermeture du bar après un bilan express et peu glorieux des 10 dernières années en nous promettant de nous revoir très vite.
48. Le retour de Lucie. Lucie pour Benjamin numéro 2.
Quand je suis rentré, vers 2h30, Katia dormait depuis longtemps. J'avais trop bu. Je me suis allongé tout habillé près de son corps chaud. L'alcool aidant, je me suis endormi comme un bébé. Vers 4h du matin, j'ai reçu un appel de Lucie. C'était bien la dernière nuit où j'avais envie d'entendre ma sœur. Surtout que depuis qu'elle était passée maître en communication télépathique, elle s'était révélée extrêmement bavarde. Et puis, je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui répondre. J'étais donc condamné à l'écouter et je la soupçonnais d'en profiter.
Bonsoir mon frère, j'espère que tu vas bien. Les parents ont dû te dire que je venais pour Noël. Tu seras là aussi, n'est-ce pas? Pour tout dire, j'aimerais beaucoup que tu sois là. C'est même pour ça que je t'appelle ce soir. J'ai un peu peur de me retrouver seule avec eux, tu vois. Ça ne m'est pas arrivé depuis un an et demi, alors je m'attends au pire. Et puis, il faut que je leur annonce que je pars pour 3 mois en Inde. Ça va encore les effrayer. Je ne sais pas si je t'ai dit qu'on va devoir quitter le manoir. La mairie nous expulse. C'est un maire de droite, limite facho. Il nous prend pour des illuminés. Comme si on le dérangeait. La société va mal. Très très mal, Benjamin. Je te le dis, moi. Enfin voilà, on a donc décidé de ce voyage, en attendant de trouver un nouveau lieu d'accueil. Maman m'a dit au téléphone que t'étais redevenue quasi normale. Je suis contente. Oh, il faut que je te raconte. L'autre nuit, j'ai rêvé de toi. T'étais devenu un homme politique célèbre. Tu passais à la télé sur TF1. Il y avait un débat qui t'opposait au maire dont je viens de te parler. Je suis un peu omnibulée par lui en ce moment. Toi, t'avais un super discours. Tu disais que depuis ton AVC, tes yeux s'étaient ouverts. T'avais fondé un parti qui s'appelait l'AVC. Je ne sais plus ce que les lettres voulaient dire. J'ai essayé de retrouver, mais j'ai pas réussi. Tu lui disais que ta mission maintenant, c'était de lutter contre des types comme lui. Il s'énervait, mais toi tu restais super calme, hyper classe. C'était chouette comme rêve. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps. Réfléchis pour Noël, me laisse pas toute seule. T'as vu, la communication est impeccable maintenant. Il faut juste que t'apprennes à me répondre. Hein. Si tu viens Noël, on pourra s'entraîner comme ça. Je t'embrasse, à très vite.
49. Zombie.
La semaine dernière, j'ai laissé 2 messages à Armand. Je voulais qu'on se parle. Je m'étais jamais sentie aussi triste, aussi seule. Je regrettais. Je regrettais tellement, j'avais eu peur de cet enfant, j'avais été égoïste et conne. Il me pardonnerait jamais. Mais quelques heures après le 2e message, il m'a envoyé un SMS. Il disait qu'il valait mieux qu'on ne se voit pas pour l'instant. Qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il me ferait signe. Depuis, je passe mes journées à attendre ce signe. Je continue à travailler sur ma thèse, mais la motivation n'y est plus. Je pense qu'à Armand, à la peur de le perdre. Sarah, ma copine, m'appelle tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Elle est gentille, mais j'en ai assez de parler de moi, de l'écouter me rassurer. Je me dis qu'au fond d'elle-même, elle doit me trouver impardonnable. Je sors presque plus. Le soir, pour pas trop penser, je télécharge des séries. J'enchaîne épisode après épisode jusque tard dans la nuit. J'ai fini la 4e saison de Mad Men, la 2e de Breaking Bad. Je visionne maintenant The Walking Dead. Je suis les péripéties de ce pauvre Rick et de sa famille qui tentent de survivre dans un monde où la quasi-totalité de la population s'est transformée en zombie. Je vis avec eux, je tremble sous ma couette de peur qu'ils se fassent mordre et que l'humanité entière devienne zombie. Je tente de me rassurer en me disant qu'ils ont signé pour une 2e saison, mais rien n'y fait. La peur est illogique.
50. Noël à Arudy.
Le 22 décembre, Benjamin m'a demandé si je faisais un truc pour Noël. D'habitude, je vais chez ma mère, près de Nantes. Mais cette année, ma mère, qui depuis sa retraite s'est transformée en véritable globe-trotteur, part en voyage à Marrakech avec un couple d'amis, jeunes retraités comme elle. Elle a eu l'élégance de me demander si ça m'embêtait pas trop. J'ai répondu, au contraire, profites-en, maman. Bien sûr, c'était un mensonge et c'était le monde à l'envers. Voilà comment j'acceptais la proposition d'accompagner Benjamin à Arroudi, dans les Pyrénées, dans sa famille, comme un enfant abandonné du Secours catholique à qui l'on propose une famille d'accueil pour les fêtes. Nous sommes partis en voiture, donc, le 24 au matin, tous les trois avec Katia. Ça me fait plaisir de revoir les parents de Benjamin. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était aux soins intensifs de l'hôpital Bichat. Il faisait connaissance pour la première fois avec Katia, celle qui lui avait rendu la parole. C'est ainsi qu'il a surnommé le père de Benjamin. Lucie était déjà là, et déjà enfermée dans sa chambre en train de bouder. La discussion sur l'Inde avait visiblement déjà eu lieu. Sa mère demanda à Benjamin d'aller la voir. Elle va quand même pas passer le réveillon dans sa chambre. En attendant le retour du frère et de la sœur, c'était l'heure de l'apéritif.
51. Dans la chambre de Lucie.
Je frappe, la porte s'ouvre et je découvre Lucie, les cheveux courts, presque rasés. Je lui dis qu'elle ressemble à Sinéad O'Connor, la chanteuse irlandaise. Ça la fait rire. Elle a maigri, ça lui va bien. On s'embrasse. Elle me confirme qu'elle venait d'annoncer aux parents qu'elle partait en Inde. Ça avait crié un peu, mais c'était passé, elle se sentait soulagée. Elle avait tout de même éprouvé la nécessité de marquer un peu le coup après une remarque de papa qui l'avait blessée. Voilà pourquoi elle était dans sa chambre.
Il s'inquiète, c'est normal. Moi aussi, je m'inquiète pour toi.
Mais arrêtez de vous inquiéter tous pour moi. C'est moi qui devrais m'inquiéter pour vous.
C'est quand même bizarre et un peu flippant ton truc de communauté. De télépathie, de manoir et tout ça.
Et toi, c'est pas bizarre que t'aies fait un AVC à 30 ans?
Aucun rapport.
C'est ce que tu crois?
Non, me parle pas comme ça, comme si t'avais la vérité absolue, c'est gonflant.
Mais c'est toi qui es gonflant, tu veux rien comprendre.
Bon, arrête. On va pas se disputer, c'est Noël. Bon, allez, viens, on va bouffer la dinde.
Je bouffe plus de viande.
Ah, c'est original.
Connard.
T'ont pas appris la politesse dans ta secte?
C'est pas une secte, putain.
On a quitté la chambre de Sinéad O'Connor. J'étais un peu rassuré quant à sa santé mentale. Elle n'était pas totalement lobotomisée. Dans le salon, les parents nous attendaient devant un plateau de toast au tarama et aux œufs de limpe.
52. Alléluia.
Ce fut un excellent repas de Noël. Katia et moi étions des invités choyés. Et pendant ces quelques heures, j'étais parvenu à oublier mon triste sort. Il est donc 0h45 et ça y est, nous sommes officiellement le 25 décembre. Le Fils de Dieu est arrivé pour sauver l'humanité et la laver de ses péchés. Tandis que la famille de Benjamin et de Katia s'échangent des cadeaux au pied du sapin et contribuent à perpétrer la tradition, je m'éclipse dans la cour de la ferme. Il fait étonnamment doux pour cette période de l'année. C'est une nuit claire et sans nuages. Dans les tables, les brebis bêlent en chœur. Non mais c'est fou quand même, comment ça peut ressembler à un cri humain, ça. Je décide de m'éloigner un peu plus de la maison pour apprécier la vue sur les Pyrénées. Je marche sur le chemin qui monte vers les hauteurs d'Arroudi. Dans cette lumière lunaire, l'eau saut et majestueux. Je m'arrête au bout du chemin, seul face à ce pic de 2884 mètres. Je suis saisi d'une envie irrésistible d'appeler Amélie, mais je résiste à l'irrésistible et décide de poursuivre ma route. Mes pas me mènent jusqu'à la place du village. La messe de minuit vient de finir, les fidèles quittent l'église. J'observe ces silhouettes de tous âges qui traversent la place. Personne ne me regarde. Personne ne semble me voir. Je viens d'un autre espace-temps. Je n'existe pas. Un peu désappointé par l'indifférence de mes semblables, je m'assois sur un banc sous l'allée des platanes. La place du village est maintenant rendue à sa quiétude. Et je me sens désespérément seul.
Pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. Mon enfance est si loin, il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps.
53. Orgeval.
Quand Armand a appelé, j'étais allongée sur mon lit, dans ma chambre d'enfant à Orgeval. Nous venions de fêter Noël avec mes parents, mon frère, ma sœur et leurs compagnons et compagnes respectifs. J'étais la célibataire de la soirée. Mes parents aimaient beaucoup Armand, et notre situation semblait les affecter particulièrement. Je me sentais doublement coupable. Bien sûr, ils ignoraient les raisons de cette séparation. Ce fut pas un réveillon des plus gais, et vers minuit et demi, je suis partie dans ma chambre, prétextant une fatigue soudaine. Lorsque mon portable a sonné, j'étais à deux doigts de m'endormir. Nous nous sommes parlé pendant près d'une heure. Ce que nous nous sommes dit, je l'oublierai jamais. Notre histoire avait plus grand-chose d'un conte de fées. Nous n'étions plus des enfants. Et si nous avions tant besoin l'un de l'autre, c'était en partie dû à nos faiblesses. À l'habitude, à la peur d'être seuls. Dorénavant, nous le savions et il nous faudrait réussir à vivre avec. Il nous faudrait essayer de réinventer notre histoire. Au matin, je pensais avoir rêvé. J'avais envie d'être près de lui.
I've seen it all. I have seen the trees. I've seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see.
Épilogue. Janvier 2012. 54. Le cinquième jour de l'année de la fin du monde. Le temps qui passe numéro 2.
Il est 7h45 quand le radio réveil branché sur France Inter se déclenche. La journée commence avec la voix chantante de Joël Collado qui nous annonce une journée grise et froide. C'est le cinquième jour de l'année 2012, l'année de la fin du monde selon les Mayas. Et c'est aussi l'anniversaire d'Amélie. Ça y est, elle a 30 ans. J'appuie sur le bouton off. Louant ainsi le bec à la revue de presse matinale, pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui, aucun incident nucléaire, ni de crise mondiale. Je scrute le visage d'Amélie, encore endormie, à la recherche d'un signe de son entrée dans sa nouvelle décennie.
Pour fêter cette journée particulière et symboliquement chargée, selon son expression, Armand a décidé que nous ne devions pas travailler. Pour commencer, nous sommes restés au lit. Puis il a sorti du tiroir de la table de chevet un petit paquet. Il contenait une bague en argent surmontée d'une pierre blanche. Je l'ai passée au doigt. C'est une bague magique. Il paraît qu'elle exauce certains vœux, m'a-t-il dit. Il m'a pris dans ses bras et nous nous sommes rendormis. Lorsque nous nous sommes réveillés, il était environ midi. J'ai ouvert les volets. Le ciel était uniformément gris selon les prédictions de Joël Collado. La météo n'avait décidément fait aucun effort pour mon anniversaire.
Allongé sur le lit, je regarde la silhouette d'Amélie qui ouvre les volets. Le jour entre dans notre chambre. Je me dis que la vie que nous menons ensemble est heureuse, que nous formons un couple, qu'elle est ma plus chère amie. Elle se tourne vers moi. Je peux pas voir les traits de son visage en contre-jour. J'imagine qu'elle me sourit, sans certitude. À moins qu'elle adopte son visage grave quand la petite ride entre ses sourcils se creuse. J'imagine maintenant qu'elle me regarde en pensant à nous, à ce déjà long parcours depuis notre rencontre et à ces quelques épreuves traversées. Peut-être même qu'elle pense à l'avenir.
55. L'Expo Munch.
Nous avons rendez-vous à 16h devant Beaubourg, avec Katia et Benjamin. Nous avons décidé, en ce jour dédié à l'oisiveté, de visiter l'exposition Munch, qui s'achève dans les prochains jours. J'étais impatiente de me retrouver face à ces peintures, mais j'avais surtout hâte de découvrir ces autoportraits photographiques. J'avais pris connaissance de certains d'entre eux en travaillant sur ma thèse, mais j'avais jamais encore eu la chance de voir les originaux. Après une première salle exposant quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, nous découvrons une seconde salle, intitulée Reprise, qui présente Munch comme un peintre adepte de la copie de ses propres toiles. Katia contemple l'enfant malade. Benjamin et Armand sont cloués devant une nouvelle version de la puberté. Quant à moi, j'entre dans la troisième salle, celle des premiers autoportraits photographiques. Dans ces épreuves, le peintre se met en scène, seul devant ses peintures, dans son atelier, ou assis à une table avec en premier plan parfois un personnage, sa gouvernante, un ami. L'une d'elles s'intitule « Autoportrait à la Mara ». Je lis sur le cartel qu'elle a été prise à la clinique de Copenhague, où il est soigné pour dépression. Le peintre s'est photographié nu dans son bain. Dans les salles suivantes, nous revenons à la peinture. Je retrouve de nombreuses toiles dont je ne connaissais que les reproductions sur papier glacé, parmi lesquelles portraits entre l'horloge et le lit, où Munch, vieillard, s'est peint hagard, le corps rigide entre ces objets symbolisant le temps qui passe et sa mort prochaine. J'entre, l'esprit rempli de visages et de paysages tourmentés, dans l'avant-dernière salle. Elle est aussi consacrée à la photographie. Dans les années 20, Munch, après une longue interruption, recommence à produire des autoportraits. C'est maintenant un homme âgé. Dans ces images, il n'y a plus vraiment de mise en scène. Munch, ses mains tendues, tenant l'appareil, photographie simplement son visage angoissé. Elles me font penser aux autoportraits de Roman Opalka, qu'il réalisait à chaque fois qu'il terminait une toile. Opalka est mort, au mois d'août dernier. Il a achevé son œuvre. Je me demande s'il connaissait les autoportraits de Munch. L'exposition s'achève par une salle où sont montrés les derniers dessins du peintre, à la suite d'un accident vasculaire et d'une hémorragie dans le corps vitré de l'œil droit, sa vue est altérée. Il décide de restituer graphiquement ce qu'il voit à travers son œil malade. Nous arrivons dans la salle en même temps avec Katia. Benjamin et Armand nous attendent devant une de ses abstractions. Benjamin se penche vers Katia. Je lis sur ses lèvres. C'est la salle de l'AVC.
56. De but en blanc.
Au cours des derniers mois, je m'étais rapprochée d'Amélie. Je crois que nous sommes devenus amis le jour où nous nous sommes retrouvés seuls chez moi. Nous avions rendez-vous avec Armand et Benjamin pour aller au cinéma. Elle était arrivée en avance. Nous parlions de choses et d'autres. Elle m'interrogeait sur mon travail. Au cours de l'échange, alors que la conversation ne s'y prêtait pas du tout, elle m'avait dit, comme ça, de but en blanc, qu'elle m'aimait beaucoup. Elle avait enchaîné aussitôt, ne laissant aucune chance à un silence gêné. J'avais trouvé la méthode délicate et la confidence m'avait touchée. Avant ce jour, Amélie m'intimidait. J'étais incapable de savoir ce qu'elle pensait. Je crois qu'elle le sentait, et en prononçant ces quelques mots, elle m'avait définitivement libérée, et notre relation était devenue simple. En sortant du centre Pompidou, nous avons pris un bus pour nous rendre chez nous, où nous avions décidé de fêter ensemble son anniversaire.
Bonsaï.
J'ai fait des pâtes à la carbonara. C'est une valeur sûre. Comme me semblait-il les cadeaux que nous avions offerts à Amélie. Un gilet noir Agnès B et un bonsaï. Le bonsaï, c'était mon idée. J'assumais mon choix malgré les réserves de Katia qui trouvait que c'était un cadeau empoisonné. Je connais personne qui ait réussi à garder en vie un bonsaï plus d'un an, m'avait-elle dit. Le repas terminé, nous buvons un digestif dans le salon. En dégustant l'armagnac, je regarde le bonsaï posé sur la table basse près du gilet Agnès B. Je ne sais si c'est le fait de me remémorer la remarque de Katia ou les pensées noires qui occupent mon esprit régulièrement depuis l'AVC, mais j'ai l'étrange impression qu'il commence à mourir. Là, sous nos yeux.
Vous avez vu le bonsaï ?
Quoi, le bonsaï ?
Vous trouvez pas qu'il a une drôle de tête ?
Non, il est très beau.
Vous trouvez pas que ses feuilles sont moins luisantes ?
C'est l'éclairage, il va très bien ce bonsaï, qu'est-ce que tu racontes ?
Peut-être que tu devrais l'arroser, Amélie, non ?
Si tu veux. Mais on l'a arrosé tout à l'heure ?
Non mais c'est mauvais de trop arroser les bonsaïs.
58. Dans le dernier métro.
Ligne 5, nous rentrons par le dernier métro. Il est presque vide. Amélie pose son visage contre mon épaule et doucement ferme les yeux. Je l'entends respirer. Je calme ma respiration sur la sienne. À la station Bastille, un jeune homme entre dans notre rame. Ce visage ne m'est pas inconnu. Au bout d'un instant, son regard croise le mien. Je reconnais un des deux types qui a failli me tuer. C'est pas le petit qui m'avait planté le couteau, non, c'est l'autre. Le grand. Il me reconnaît à son tour. Il devient nerveux. Il baisse les yeux, puis les pose sur le visage d'Amélie. Il la reconnaît elle aussi. Je maintiens mon regard. Je lis dans le sien. Et le métro s'arrête sur le quai de la station Richard Lenoir. Il descend précipitamment. Posé sur mes genoux. Dans un sac en plastique. Le bonsaï agonise.
C'était Les monologues automne-hiver de Sébastien Bedbété. Deuxième partie, automne-hiver 2010-2011. Épilogue, janvier 2012. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Avec Vincent Macaigne, Armand. Maud Weiler, Amélie. Bastien Bouillon, Benjamin. Audrey Bastien, Katia. Pauline Etienne, Lucie. Thomas Blanchard, Yann. Eriko Takeda, Azuki. Et la voix de Agathe Bonitzer. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Lidwin Caron. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sébastien Bedbété, Jacques Taroni.